France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Cette semaine marquera-t-elle la fin de l'ère Bouteflika en Algérie, après plus d'un mois de contestation populaire? Hier en tout cas, le chef d'état-major, le général Ahmed Gaed Salah, a demandé à ce que le président Abdelaziz Bouteflika soit déclaré inapte au pouvoir. Il demande l'application de l'article 102 de la Constitution algérienne, 6 ans, rappelons-le, après l'AVC du président Bouteflika qu'il a laissé très affaibli. Elle n'arrive pas à se sortir de l'impasse sur le Brexit et pourrait donc annoncer sa démission. Selon le journal The Sun, la première ministre britannique Theresa May quitterait ses fonctions aujourd'hui à l'occasion d'une réunion avec des élus du Parti conservateur. En échange de son départ, dit encore le journal, Theresa May espère obtenir le soutien des parlementaires pour voter son accord sur le Brexit, un accord déjà refusé 2 fois. L'économie française se porte un peu mieux. L'INSEE a hier revu ses chiffres à la hausse, à 1,6% contre 1,5% l'année dernière. Ce n'est pas le cas de l'Allemagne, qui montre ces derniers mois quelques signes de fragilité économique. Le pays flirte même avec la récession à cause des tensions commerciales mondiales. Une offre de dernière minute entretient l'espoir à la papeterie Arjo Wiggins. Ses 3 usines sont menacées de fermeture, mais le tribunal de Nanterre reporte sa décision de 3 jours après cette offre, donc, pour sauver le millier d'emplois menacés dans ces papeteries. Dans le Nord, ce sont les salariés de l'acierie Ascoval à Saint-Saulf qui devraient obtenir un sursis ce mercredi au tribunal. 3 nouvelles offres de reprise ont été déposées dans ce dossier emblématique de la désindustrialisation française. Et puis notez que ce mercredi également sera présenté le projet de loi pour réformer la fonction publique, défendu par le gouvernement comme une nécessité pour rendre la fonction publique plus attractive et plus réactive, voilà ce que dit le gouvernement. Et bien ce texte s'inscrit dans un objectif de suppression de 120 000 postes d'ici à 2022, 120 000 suppressions sur les 5,5 millions d'agents. Le texte prévoit également un recours accru aux contractuels, il est rejeté par l'ensemble des syndicats de fonctionnaires.
Youri Favorine interprète Franz Liszt à l'auditorium de Radio France. Le 7 avril à 16h, le pianiste russe, lauréat du prestigieux concours Reine-Elisabeth, interprète Les années de pèlerinage de Liszt. Une recherche de l'absolu dans l'atmosphère intime de l'auditorium de Radio France. Entrez au cœur du concert. Réservation maisondelaradio.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03. Tofik Hakem est à vos côtés.
Le réveil culturel. Tofik Hakem.
Bonjour tout le monde. La Cinémathèque française met à l'honneur en ce moment Bruno Nutten en tant que directeur de la photo et en tant que metteur en scène. Bruno Nutten, témoin et acteur privilégié du meilleur du cinéma français des années 70, 80 et 90, est notre invité ce matin. Et le réveil culturel, c'est tous les matins tôt à la radio ou quand vous voulez en passant par l'abonnement au podcast, disponible entre autres sur franceculture.fr. Coordination, Corinne Amar. Les réseaux sociaux sont animés par Maël Ray. À la réalisation, Vincent Abouchard, avec à la prise de son ce matin, Alain Joubert.
Le réveil culturel, mercredi, cinéma.
Bonjour Bruno Nutten.
Bonjour.
La Cinémathèque vous rend hommage avec une riche rétrospective jusqu'au 3 avril. D'ailleurs, ce samedi 30 mars à 14h30, vous allez donner une leçon de cinéma, Bruno Nutten par Bruno Nutten. Ainsi, la Cinémathèque française à Paris-Bercy salue votre travail de chef opérateur majeur du cinéma français de la fin du XXe siècle. Car même si vous avez aussi réalisé quelques films, dont Camille Claudel, vous vous présentez d'abord comme directeur de la photo.
Enfin, je me présente d'abord comme un amateur. Ce qui est un statut que je revendique absolument et ce qui a été ma façon d'aborder ce métier depuis toujours. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup les grands cinéastes, les grands chefs opérateurs. Peu à peu, j'ai essayé de ressembler un tout petit peu à certains directeurs de la photographie puisque j'ai pensé que c'était un métier beaucoup plus accessible pour principalement vivre au quotidien que celui de metteur en scène. Et donc, ce statut d'amateur me permet de garder, disons, une certaine distance et une certaine modestie par rapport au travail
que j'ai fait. Mais qu'est-ce que vous entendez par amateur artisan, j'aurais compris, mais amateur, vous voulez dire quoi par là, Bruno?
Amateur, c'est que je suis absolument pas je me sens absolument pas un professionnel du cinéma, et je ne me suis jamais senti comme ça.
Même si vous avez fait une école pour ça?
J'ai pas fait d'école, en fait. J'ai commencé une école en Belgique.
À Bruxelles, ouais.
Et je suis resté pendant un an. Et j'ai dû rentrer en France pour me présenter à l'examen de sortie de l'école des techniciens français, puisqu'à l'époque, il fallait passer par le BTS pour pouvoir avoir le droit de travailler. Il fallait avoir une carte professionnelle, ce qui a disparu, je crois. J'ai fait des études très courtes, en fait. Et je suis très autodidacte, au fond. Et je le suis resté, d'ailleurs. J'ai toujours aimé cette espèce de bricolage des autodidactes et cette façon qu'on peut avoir de trouver des informations à gauche et à droite et d'en faire le tri ou l'amalgame, si on veut, pour pouvoir trouver soi-même des solutions à des problèmes.
Vous avez aimé énormément le cinéma, mais en son siècle, c'est-à-dire au siècle dernier, puisque vous avez décidé d'arrêter tout.
J'ai tout arrêté. Non, de toute façon, j'ai toujours...
En l'an 2000, c'est ça? Vous avez réalisé quand même un film que vous avez commandé, notre défunt ami Pierre Chevalier.
Absolument.
Pour Arte. Et c'était en 2002. Et puis ensuite, vous avez décidé...
Non, c'était 2001, ça.
2001.
Enfin, il est sorti en 2002, peut-être. C'était 2001, puisque j'ai tourné pendant
le 11 septembre, je suppose.
Le 11 septembre, voilà. J'ai travaillé très peu. Enfin, j'ai travaillé énormément dans des temps très courts, quoi. Et ma vie est bizarrement structurée par période de 15 ans. Donc, je vous passe les 15 premières. À partir de 25 à 40 ans, j'ai fait de la prise de vue. Et j'ai fait environ, je sais pas, 35 ou 40 films, je sais pas. Donc, j'ai eu la chance de travailler beaucoup. Et j'ai arrêté en 85, quand j'avais 40 ans. Et là, j'ai tenté de faire de la mise en scène pendant une quinzaine d'années aussi. Et puis, un jour, j'ai plus eu envie. Et ça, c'était juste après le 11 septembre, pendant le tournage du film auquel vous faisiez allusion, qui s'appelle Jim la nuit, que j'avais tourné pour Arte et Pierre Chevalier. Après, j'ai fait 15 ans de vie ailleurs, autrement, sur d'autres choses que j'avais pas eu le temps de fréquenter plus tôt.
Mais là, le divorce est consommé avec le cinéma, mais pourquoi cette décision, Bruno Nitten?
Oh, c'est un assemblage de beaucoup de paramètres, en fait, qui sont principalement, et je reviens à mon histoire d'amateur, c'est que tout à coup, à force d'être un amateur, on finit par être un amateur chevronné, éclairé, et on finit par vous considérer comme un professionnel. Donc on s'adresse à vous comme un professionnel, même si vous ne l'êtes pas. Et les demandes sont d'un ordre beaucoup moins affectif, en fait. C'est-à-dire que on est amené à faire un travail, à le faire bien, mais on vous demande pas on vous aime pas forcément, on demande pas que vous aimiez les gens, vous faites votre boulot et vous le faites bien.
Et ça,
surtout les techniciens.
Et ça, vous avez refusé de le faire?
Ça m'amusait plus du tout. Donc c'est là où j'ai commencé à m'ennuyer, d'ailleurs. Alors, pas totalement m'ennuyer, parce que moi, je m'intéressais à mon travail, enfin, à la photo, parce que le grand problème, c'est le manque d'imagination. C'est que là, c'est qu'on vous appelle toujours pour des choses que vous avez déjà faites. Du genre, si tu pouvais me refaire le jaune pâle que tu avais fait dans tel film, ou le bleu foncé que tu avais fait dans un autre, ce serait bien. Donc, il y a un petit manque d'imagination de la part des gens qui vous demandent, mais c'est légitime, hein, ils se réfèrent à des choses qui existent. Et moi, j'avais envie de continuer à chercher, et ça s'est de moins en moins proposé. Et c'est là où j'ai commencé à m'ennuyer un peu, et surtout à m'intéresser plus aux acteurs qu'à mon travail, quoi. Mmh. Parce que j'ai toujours eu une vraie curiosité pour les acteurs.
Bruno Nutten, est-ce que vous avez l'impression... Moi, je me suis dit que vous avez quitté le cinéma quand vous êtes rendu compte que votre métier de chef opérateur ou directeur de la photo commençait à disparaître. Je m'explique, à l'époque de la pellicule argentique, le travail du chef op était personnalisé. Hein. Il fallait s'occuper de l'éclairage, du cadre, le rendu des couleurs. Tout cela dépendait du chef opérateur et ce travail était donc très personnel. Mais aujourd'hui, avec le cinéma numérique, où on peut voir l'image au tournage et surtout avec toutes les possibilités de la post-production, est-ce que vous vous êtes dit peut-être que mon métier a disparu?
Ah, pas du tout, alors. Pas du tout. D'autant que le numérique est arrivé après Enfin, il y avait les balbutiements du numérique à l'époque. On commençait à avoir des retours vidéo, des choses comme ça. Mais quand j'ai arrêté, c'était absolument pas dans les mœurs du cinéma. On pouvait pas ou difficilement imaginer que l'argentique disparaîtrait aussi rapidement, vu que le numérique à l'époque était pas vraiment compétitif en termes de qualité. Donc c'est pas du tout la raison. Et d'ailleurs depuis, moi je me suis, puisque maintenant je fais beaucoup de photographies, pas de cinéma, mais des photographies pour moi-même, et que je fais ça en numérique, j'adore le numérique. Je pense que vous avez un peu tort de penser que ça a fait disparaître les chefs opérateurs. Au contraire, je trouve que des chefs opérateurs d'aujourd'hui qui travaillent sur du numérique et qui arrivent à travers leur numérique à trouver un style personnel sont des gens extrêmement forts, parce que le système numérique est prodigieusement intelligent et performant. Donc il faut arriver.
Alors c'est quoi la différence entre ce que vous avez connu à votre époque, c'est-à-dire avant le numérique, et l'âge d'aujourd'hui?
Bah la grande différence, évidemment, vous le disiez tout à l'heure, c'est qu'on ne voyait pas ce qu'on faisait. On ne voyait pas. Non seulement on ne voyait pas ce qu'on faisait, mais les caméras étaient aveugles comme des taupes. C'est-à-dire que la pellicule n'était pas sensible. Les caméras avaient des ouvertures quand j'ai commencé.
Et toute la responsabilité reposait sur vos épaules et votre regard, non?
Bah, c'est pas tant une responsabilité qu'il fallait construire simplement de la lumière pour qu'on puisse y voir. Il n'était pas question de pas éclairer, on ne voyait pas, quoi. Donc c'était assez fantastique, mais ça représentait beaucoup de travail. Mais je pense que le travail sur le numérique aujourd'hui qui voit trop est aussi une autre façon de considérer les choses. Et c'est un véritable handicap d'y voir trop pour faire du cinéma, à mon sens.
Bruno Nutel, on va parler de quelques films qui ont marqué votre carrière. C'est un choix subjectif. Et on va commencer par celui-ci qui me tient particulièrement à cœur.
Messieurs, je vous en prie. Nous connaissons l'assassin. Enfin, mademoiselle l'a vu. Et il ne vous ressemble pas, n'est-ce pas, mademoiselle?
Oui, il pourrait ressembler à tout le monde. Je croyais que le dessin était fidèle, mais je me suis rendu compte que tous les portraits robots se ressemblent.
Mademoiselle, excusez-moi d'être indiscret, mais qu'est-ce que vous faites ici exactement?
On me montre des types toutes les heures, des suspects qu'on ramasse aux quatre coins de la ville. Alors je les regarde. Non, c'est pas ça, l'assassin. C'est pas ça.
C'était en 1975. On reconnaît bien sûr la voix d'Isabelle Adjani, mais quelle distribution dans ce film d'André Téchiné, Barocco. Adjani, bien sûr, mais aussi Depardieu, Marie-France Pizier, Jean-Claude Brialy, Julien Guillemard, Hélène Surgère, Claude Brasseur, Jean-François Stévenin, la chanteuse Marie-France. Et puis vous, Bruno Nutel, vous, face à Isabelle Adjani, c'est le début d'une histoire. Est-ce qu'à un certain moment, on oublie d'être technicien et on se laisse emporter par une émotion, par les émotions? Bien entendu, je vous pose cette question des années plus tard, parce que on sait que ensuite vous avez formé un couple avec Isabelle Adjani, mais comment s'est fait ce tournage?
Ça correspondait à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que moi j'ai jamais pu travailler hors de l'affect. C'est-à-dire que j'ai besoin d'aimer, que ce soit de l'amour ou de l'amitié, j'ai besoin de ça pour travailler. Donc j'ai peu à peu constitué déjà une équipe d'hommes, alors c'était pas des histoires d'amour, c'est des histoires d'amitié, qui m'accompagnaient dans mon travail, comme assistant, comme machiniste, comme électricien, et on a formé une vraie famille. Alors les familles c'est compliqué, hein, parce que dès l'instant où l'affect est là, parfois dans le travail, ça rend les choses un peu compliquées. Par contre, dans d'autres moments du travail, ça simplifie énormément les choses. D'abord parce que les gens vous connaissent, et ensuite parce qu'on peut demander des choses impossibles à des amis, ce qu'on peut pas forcément demander à des gens qui ne le sont pas.
Ça, ce que vous demandez à votre équipe, Bruno Nutel, c'est ce que le réalisateur veut obtenir, ou c'est vous qui prenez cette initiative?
Ah, c'est moi. Au hasard des films que j'ai fait précédemment, enfin avant Barocco par exemple, j'ai rencontré de ci de là des gens que j'ai appréciés et que j'ai engagés dans mon équipe et qui sont restés longtemps dans mon équipe. La plupart sont restés jusqu'au bout. Ça a été pour moi Barocco d'abord l'aventure d'une équipe d'amis, et c'est greffé sur cette aventure d'amitié une aventure d'amour. Mais ça n'a pas empêché, je suis resté à ma place, hein, c'est pas du tout, c'est simplement que...
Mais on filme de la même manière quelqu'un quand on est
amoureux de cette personne. Filmé, j'ai toujours été amoureux des acteurs que j'ai pu filmer, même si je l'aurais jamais dit, et même s'il n'était pas question d'être amoureux de tout le monde. Hein. Mais c'est vrai que comme j'étais principalement cadreur aussi, enfin je faisais le cadre et la lumière, j'ai eu des rapports comme ça dans le non-dit, hein, entre des acteurs. On est si près de l'acteur quand on le cadre, on l'accompagne tellement précisément, c'est-à-dire qu'à son moindre frémissement, il faut partir avec lui, que j'ai appris à les voir travailler aussi. J'ai appris à les voir avant les prises, quand on a déjà l'œil dans l'œil tombe et que l'acteur n'a pas commencé à jouer, et surtout après.
Et que faites-vous des indications du metteur en scène ?
Les indications du metteur en scène, généralement, sont des choses qu'on n'entend pas, dans la mesure où les indications à l'adresse des acteurs se passent soit en répétition, soit dans le creux de l'oreille, soit derrière une feuille de décor, mais rarement à vue quand on tourne. Ça arrive, hein, entre les prises, qu'un metteur en scène fasse une rectification. L'indication du metteur en scène, c'est déjà sa mise en place dans un décor, c'est de quel point de vue il se place, comment on va filmer ça, comment on va le découper. Dès l'instant où il a inscrit tout ça, le travail part, la préparation des plans se fait, et après, il n'intervient plus.
Toi et moi, c'est pas pareil. Nous sommes deux révoltes de la nature, nous sommes de la même race.
Je suis Camille Claudel, et si vous l'ignorez, je saurais vous l'apprendre.
Quel orgueil.
Là où elle est violente, ce n'est que parce qu'elle est passionnée.
Ma sœur est un mystère en pleine lumière.
Mademoiselle Claudel, l'élève de Rodin, Mademoiselle Claudel fait du Rodin, Mademoiselle Claudel ramasse les miettes du maître pour les fourrer ensuite dans sa sculpture. Et c'est ça que tu as laissé faire, c'est ça que tu as laissé dire.
Et quand vous passez à la réalisation, Bruno Nutten, par exemple, pour Camille Claudel, première réalisation, qu'est-ce qui change fondamentalement dans votre travail d'homme de cinéma, vous qui étiez avant, après, chef opérateur, oui, tout, c'est-à-dire?
Tout change. Camille Claudel, en soi, c'est quand même au départ une commande, hein, puisque c'est Isabella Gianni qui m'a proposé de faire ça. C'est vrai que moi, j'arrivais vraiment dans un moment où j'avais de moins en moins de plaisir dans mon travail, donc ça tombait pile au bon moment. Mais entre le moment de la proposition de ce projet et son exécution, il a fallu que je m'approprie absolument le film pour le fabriquer, mais déjà antérieurement au film, l'histoire de Camille Claudel, etc. C'est comme ça que j'en suis arrivé à écrire le scénario avec une amie, et puis finalement tout seul, et puis de nouveau avec cette amie, etc. Et en faisant les recherches sur le personnage, je me suis approprié peu à peu le film. C'est-à-dire que finalement, j'en savais plus que les acteurs qui seraient convoqués, y compris plus qu'Isabelle Adjani dans le stade de l'écriture. Au-delà de ça, Isabelle s'est intéressée aussi, bien sûr, au personnage, mais beaucoup plus tard, parce que c'est sa façon de travailler. Elle travaillait toujours en intégrant énormément d'informations dans les quelques jours qui précédaient son interprétation. C'était sa façon de faire.
Ça vous a rapproché des comédiens, le fait d'être metteur en scène, ou le fait c'était diriger toute une équipe?
Bon, là, je n'ai pris avec moi que des gens que j'admirais et des gens que je connaissais, parce que Gérard Depardieu, je l'ai connu longtemps avant Isabelle, quelques années avant. Et c'est vraiment un homme avec qui j'ai vraiment sympathisé, que j'ai accompagné longtemps dans son travail, sur beaucoup de films, très différents. Et il était pour moi un Rodin absolument idéal, de toute façon, ne serait-ce que physiquement. Et quand je terminais l'image de Jean de Florette et Manon Dessources, comme ils jouaient un rôle dans le film, et qu'Isabelle m'avait déjà fait la proposition de Camille Claudel, je lui ai immédiatement parlé de Rodin, et il a semblé intéressé. Bon, après, ça a été plus compliqué, parce qu'il était engagé ailleurs, etc. Mais ça, c'est le jeu du cinéma. Et Isabelle était absolument d'accord avec moi pour cette idée de Rodin. Donc j'ai réuni, en fait, ces deux personnages que j'avais connus sur le film d'André Téchiné, Barocco. Je les ai remis ensemble. Et moi, ce que j'ai toujours adoré, c'est les films où Gérard est amoureux. La femme d'à côté, il y avait Dites-lui que je l'aime de Claude Miller. Mais c'est toujours des amours un peu tordus. Et il y a Cyrano, évidemment, mais Cyrano, c'est après Claudel. Donc j'avais envie de voir Gérard amoureux. Et là, en plus, c'est un double regard, parce que c'est un sculpteur amoureux du travail de l'autre sculpteur et amoureux de la femme dont il va faire aussi son modèle et son exécutante. Je trouvais que c'était une histoire assez belle qui les concernait bien tous les deux.
Mais c'est la première fois que vous passez à la réalisation, Bruno Nutten.
Oui, c'était un projet extrêmement lourd à porter. Mais je sais pas, j'y étais avec une espèce d'enthousiasme et de légèreté qu'aujourd'hui je trouve invraisemblable, puisque je la trouve très naïve, dont j'ai pris aussi des mauvais coups hein, quand on est trop naïf. Mais ça me donnait une force, je pense que ça m'a donné beaucoup de force en fait.
C'était il y a 30 ans, c'était en 1988. Et maintenant avec le recul, Bruno Nutten, vous préférez faire un film en tant que metteur en scène ou vous avez pris plus de plaisir en tant que metteur en scène ou en tant que chef-op?
Enfin, c'est pas du tout le même plaisir si on peut en prendre. Disons que c'est plus simple de prendre du plaisir comme directeur de la photographie que comme metteur en scène, puisque metteur en scène, on est assailli de questions dont on ne connaît pas la réponse. Il faut plaire au producteur. Enfin, c'est tout à fait un autre engagement et il faut savoir vendre son film. Chose à laquelle j'étais absolument pas préparé. Heureusement, bon, Isabelle a pris la relève, elle l'a fait à ma place, mais c'est très compliqué et ça ne me ressemble pas du tout. Donc en fait, je pourrais dire, en étant honnête, que j'ai mieux trouvé ma place comme directeur de la photographie que comme metteur en scène, qui est une place un peu compliquée à prendre. Sauf si soi-même on cadre les acteurs ou soi-même on fait la lumière, mais en même temps c'est trop de travail, donc on peut difficilement faire les deux à la fois. Il y a beaucoup de metteurs en scène qui cadrent, mais au-delà du cadre, on peut pas faire la lumière en plus.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me ensemble, toi qui me parlais d'elle, d'elle qui te chantait, toi qui me parles d'elle, de son nom.
Musique, Carlos D'Alessio, texte, Marguerite Duras, interprétation, Jeanne Moreau. En 1975, Marguerite Duras tourne au cinéma une adaptation de son roman, de sa pièce de théâtre, India Song. Et vous êtes là, Bruno Nutten, à l'image. Et là, en l'occurrence, Marguerite Duras, qui n'est pas metteur en scène, elle vous fait entièrement confiance pour l'adaptation cinématographique.
Ah bah, elle a mis du temps à faire confiance parce qu'elle m'a fait... Je l'ai rencontrée quand j'étais plus jeune et elle cherchait un jeune opérateur pour un film qui s'appelait Jaune le soleil. Et puis elle m'a dit que j'étais trop jeune. Donc elle m'a dit, trouve un chef opérateur qui pourra t'employer comme assistant. Et c'était Ricardo Aronovitch pour ce film-là. Et puis le suivant, c'était Nathalie Granger. Elle a recommencé le même numéro en disant, non, t'es toujours trop jeune, mais trouve un autre chef opérateur avec qui tu t'entends bien et qui pourrait faire le film. Donc j'ai fait aussi comme assistant Nathalie Granger. Et là, elle m'a dit, c'est ton tour. Et on a fait ensemble un autre film qui s'appelait La femme du Gange avant India Song. Et India Song, elle m'a totalement fait confiance, sauf qu'elle avait une façon d'expliquer la lumière qui était assez étrange, une façon un peu littéraire, enfin à sa façon à elle, quoi. Donc il fallait interpréter ses propos pour lui donner satisfaction et pour qu'elle soit heureuse. Cela dit, Marguerite a toujours été heureuse de voir des images qu'elle avait faites. Elle était au spectacle dès l'instant où elle allait voir les rushs de ses propres films. Donc c'était très, très charmant tout ça.
Et en l'occurrence, vos images, Bruno Nutten.
À cet instant-là, oui, il y a eu d'autres chefs opérateurs qui ont travaillé avec elle et je pense qu'elle était aussi ravie. C'était une vraie rencontre avec Marguerite.
Il y avait des disputes avec Marguerite Duras? Des incompréhensions?
Des incompréhensions quelquefois, mais enfin des disputes jamais. Non, non, c'était vraiment... Non, elle disait par exemple, il faut que Delphine soit dans une flaque d'ombre. Alors, on a tendance à se dire, bon, il faut qu'elle soit dans le noir. Et en fait, non, il fallait l'éclairer pour qu'il y ait de l'ombre sous elle. Enfin bon, des choses comme ça.
Dis-toi, Bruno Lutel, pour terminer cette dispute avec Jean-Luc Godard... durant le tournage de Détective, cette dispute que tout le monde connaît parce qu'elle a été filmée.
Par un caméraman qui était là sur le plateau et qui devait faire, un making-of.
Et ça s'est retrouvé. Zine, légendaire, cinéma, c'est comme ça.
Oui, qui s'en sont servis, à mon avis, de manière un petit peu tendancieuse, dans la mesure où c'est tronqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le début et la fin.
Et là, on vous voit dans une posture délicate, puisque Jean-Luc Godard vous engueule. Extrait.
Oui, eh ben je regrette effectivement qu'un caméraman ou qu'un opérateur n'ait pas à un moment inventé comme un chanteur invente une chanson. Et qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Donc on peut savoir effectivement, quand on se fait insulter par Nana, quels sont les risques qu'il prend sur un film. S'il ne veut pas de risques, il n'en prend pas. Ça m'est égal, mais il n'a pas besoin de faire la gueule non plus. Il y a assez de chômeurs en France.
Je sais pas ce qu'il veut dire par là, vous avez une drôle de relation avec le soleil. Que dit cette dispute?
Mais c'est ridicule, c'est une dispute qu'il a provoquée d'une manière totalement arbitraire. En plus, il s'est pas adressé à la bonne personne, je veux dire, c'est pas... Je pense que Godard était dans un moment un peu difficile pour lui, en tant que créateur.
Détective, c'était en 85, il s'est sorti en 85.
Et je pense que, je sais pas, il avait besoin de déverser l'inconfort dans lequel il était lui-même, en tant que créateur, sur, bon...
Mais là, en l'occurrence, vous n'étiez pas d'accord à propos de la lumière de...
On n'était pas d'accord par rapport à rien du tout. J'ai simplement dit, enfin, Johnny Hallyday était devant une fenêtre en plein été, éclairé par une grande façade blanche qui était totalement surexposée. Godard voulait pas que j'éclaire ou alors que je ne mette qu'une lampe à l'intérieur. Je pouvais pas faire la balance entre l'extérieur et l'intérieur. Je lui ai simplement demandé, vous préférez qu'on éclaire, enfin, qu'on pose plutôt pour l'extérieur, l'intérieur ou entre les deux. Et là-dessus, il a dit, bah voilà. Vous comprenez rien à ce que je fais. Vous n'avez pas lu le scénario. Il n'y avait pas de scénario. Et puis il a fait déclencher la caméra. C'est ce qu'on voit dans le truc, quoi. En plus, il me parle des inventeurs de la Reflex, alors que ce sont des gens que j'ai voulu rencontrer, mais quelques années avant. Un était mort, mais l'autre était encore vivant, même au moment où on a tourné ce film, parce que j'admirais beaucoup leur invention. Alors quand il dit qu'on s'intéresse pas aux gens qui ont inventé, enfin c'est n'importe quoi. Il est tombé sur la mauvaise personne en plus. En plus c'est pas lui qui m'a choisi, je sais pas ce que je foutais là. J'ai eu le malheur de dire que j'étais content d'être là et de travailler pour lui. Et à partir de là, ça a été un cauchemar. Jamais il faut dire ça à Jean-Luc Godard. Voilà. Mais bon, la suite était plutôt triste puisque tout le monde est parti. Il s'est fait insulter, toute l'équipe a quitté le plateau. Ils en avaient marre de ce genre d'altercation. Et je me suis retrouvé seul avec lui. Il était en larmes au bord d'une baignoire dans une salle de bain à dire qu'on comprenait rien à sa solitude. Enfin bon. Cela dit, la solitude du metteur en scène, c'est une chose que j'ai découverte après moi-même. Et c'est vrai que c'est pas marrant.
Bruno Lutel, merci d'être passé ce matin.
Je vous en prie.
La Cinémathèque française vous rend hommage, même si je vous n'aimais pas ce mot.
Pas du tout. Non.
Mais c'est une rétrospective de votre travail. Vous êtes plutôt fier d'avoir fait les films de Téchiné, d'avoir rencontré Isabelle Adjani, d'avoir fait Camille Claudel, ou d'être celui qui a fait photo des valseuses de Blier, s'il fallait retenir.
Je suis fier d'avoir vu des gens, d'avoir rencontré des gens exceptionnels et d'avoir été leur ami et d'être resté éventuellement. Voilà, c'est tout.
Merci pour votre générosité. Merci d'être passé ce matin.
Merci à vous.
Sur France Culture.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente l'exposition Elena Rubinstein, l'aventure de la beauté au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Femme d'avant-garde, Elena Rubinstein a réinventé la culture de la beauté en l'adaptant à la modernité. Dès le début du XXe siècle, elle collectionne les arts premiers, la peinture, fréquente les grands artistes de son temps et s'habille chez les couturiers les plus célèbres. À travers plus de 300 documents, peintures, sculptures, vêtements, photos, l'exposition retrace le parcours de cette femme d'exception. Elena Rubinstein, l'aventure de la beauté, jusqu'au 25 août au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Un partenariat France Culture. Place de la République, saison 2, Sonia Kronlund.
Place de la République, c'est la façon dont la République fonctionne ou pas dans trois institutions, trois services publics emblématiques. Place de la République, saison 2, c'est dans un commissariat à Auxerre, un hôpital à Amiens et une mairie à Marseille.
J'habite tout seul dans un appartement. Là, je suis hospitalisée, j'ai personne, je suis dans la misère.
Place de la République, chaque mercredi dans Les Pieds sur Terre à 13h30 et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. On connaît désormais les noms des personnalités qui vont porter aux européennes la liste de la majorité. De la ministre Nathalie Loiseau à l'écologiste Pascal Canfin, en passant par l'ancien bras droit d'Édouard Philippe, Gilles Boyer. Une liste qui tente à contenter un certain nombre de proches d'Emmanuel Macron, vous le comprendrez. Dans cette édition aussi, nous ferons le point sur la politique intérieure en Algérie. Hier, le chef de l'armée a demandé à ce que le président Abdelaziz Bouteflika soit déclaré inapte au pouvoir. Et puis, au Vatican, la rédaction d'un mensuel consacré aux femmes dans l'Église. Cette rédaction démissionne. Elle regrette une tentative de mainmise masculine sur son travail. Vous l'entendrez dans moins de 10 minutes. Nathalie Loiseau démissionnera officiellement de son poste de ministre des Affaires européennes ce mercredi après le Conseil des ministres. Elle prend en effet la tête de la liste de la majorité pour les élections européennes de mai prochain. Au total, 30 personnalités ont été choisies et annoncées hier. Une liste qui rassemble différentes tendances, droite, gauche, centre, société civile. Stéphane Robert.
C'est une liste un peu fourre-tout que conduira la future ex-ministre Nathalie Loiseau. On y trouve des écologistes, Pascal Canfin, et aussi l'ex-patron d'Europe Écologie Les Verts, Pascal Durand. Des agriculteurs, Jérémy Deserle, président des Jeunes Agriculteurs, Irène Tolleret, une viticultrice de l'Hérault près de Montpellier, et plusieurs ex-journalistes sont également sur les rangs, avec comme figure de proue l'ancien chroniqueur de France Inter, Bernard Guetta. Mais il faut quand même dire que cette liste vise avant tout à donner des gages aux personnalités politiques les plus influentes et les plus proches du président de la République. Et en la matière, c'est François Bayrou qui a été le mieux servi. Il a négocié pied à pied et il a réussi à placer 7 modem parmi les 30 premiers noms de la liste, dont 5 en position éligible. Son tour de force le plus notable est d'avoir réussi à décrocher la 15e place pour la directrice de communication de la ville de Pau, Laurence Despaux-Faringue. Les jupéistes sont également bien représentés, avec l'ancienne maire de Strasbourg, Fabienne Keller, 7e, et puis à la 12e place, le conseiller spécial du Premier ministre Édouard Philippe, ex-directeur de campagne d'Alain Juppé, Gilles Boyer. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a lui aussi placé un de ses hommes, le Brestois Pierre Carleskinde. On trouve aussi un proche de Jean-Louis Borloo, Dominique Riquet, l'ancien attaché parlementaire du centriste Jean Arthuis, Valérie Ayer. Bref, en matière d'ambitions européennes, peut mieux faire, commente un responsable du Parti En Marche, parce que cette liste permet surtout de flatter des égos et de nourrir des ambitions personnelles.
Et la campagne de la majorité pour les élections européennes sera lancée ce samedi au nord de Paris, à Aubervilliers. Pendant que sa majorité s'organisait pour les européennes, le président de la République, Emmanuel Macron, recevait lui hier à l'Élysée son homologue chinois Xi Jinping, ainsi que la chancelière allemande Angela Merkel et Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. Tous ont affiché de larges convergences sur la nécessité de consolider le multilatéralisme, d'approfondir aussi le partenariat entre l'Union européenne et la Chine, malgré des divergences. Des relations commerciales plus équilibrées avec la Chine, ce sera l'objet d'un débat lors d'un sommet le 9 avril prochain. Paris et Pékin ont également affirmé hier leur engagement par ailleurs sur le climat. L'armée algérienne lâche Abdelaziz Bouteflika. Hier, le chef de l'état-major Ahmed Gaïd Salah a demandé à ce que le président soit déclaré inapte au pouvoir et que le poste soit vacant. Il s'appuie pour cela sur la Constitution et sur son article 102. Cette déclaration d'Ahmed Gaïd Salah intervient plus d'un mois après le début des manifestations en Algérie, des protestations pour demander justement le départ d'Abdelaziz Bouteflika, Nathanaël Charbonnier.
Un peu d'oxygène. En lâchant le président Bouteflika, l'armée et le pouvoir en place viennent de se donner un peu d'air. Suivant les cas, c'est entre 3 ou 4 mois de gagner, 3 ou 4 mois avant l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle. Reste à savoir si ce temps dégagé est une ruse afin de trouver un successeur idéal pour remplacer le président sortant, ou si l'armée a véritablement compris le message de la rue et des millions de manifestants qui depuis des semaines et des semaines descendent partout en Algérie pour demander un peu plus de démocratie. Il faut dire que l'armée restera quoi qu'il arrive garante de la sécurité du pays et conservera un rôle central. Et certains imaginent même qu'elle n'est pas forcément opposée à voir réalisées par d'autres les réformes importantes que le pays doit faire, notamment dans le domaine économique. Quoi qu'il en soit, exit la réforme de la Constitution qui avait été annoncée par le président Bouteflika et retour à l'ancienne Constitution, ce qui n'est pas forcément non plus une bonne nouvelle pour l'opposition algérienne qui a souvent du mal à s'organiser pour présenter par exemple un candidat unique.
Plus de 200 pilotes, dirigeants et régulateurs seront présents aujourd'hui sur le site de Boeing à Renton dans l'État de Washington. L'avionneur américain doit y présenter la mise à jour du logiciel de son appareil 737 MAX, une réunion attendue après deux crashs d'avions similaires ces six derniers mois. Deux crashs qui ont causé la mort de plus de 300 personnes. Hier en Californie, un appareil du même type, un 737 MAX, a connu un problème technique qui l'a contraint à se poser en urgence. Il n'y avait pas de passagers à bord, l'appareil devait être convoyé pour être entreposé. Theresa May sera-t-elle encore première ministre ce soir? D'après un journaliste du Sun, elle pourrait annoncer aujourd'hui sa démission devant le Parti conservateur. La première ministre britannique espère ainsi faire voter son texte sur le Brexit par les députés. Aujourd'hui, le Parlement britannique va procéder par ailleurs à une série de votes indicatifs sur les différentes options pour le Brexit, justement. Partons à présent en Italie, au Vatican plus précisément. La rédaction d'un mensuel consacré aux femmes dans l'Église a décidé de démissionner. Les journalistes, au féminin, dénoncent un retour au cléricalisme et une tentative de mainmise masculine sur leur travail. La fondatrice de ce mensuel a écrit au pape François hier pour expliquer sa décision, Mathilde Imberti.
Lucetta Scarafia, théologienne et féministe, fonde le mensuel Femmes Église Monde il y a 7 ans, avec l'appui du pape Benoît XVI, puis celui de François, un supplément de l'Osservatore Romano, le quotidien officiel du Vatican. Le changement de directeur à la tête de l'Osservatore Romano s'est accompagné d'une reprise en main, dénonce la journaliste féministe jointe hier soir.
Le nouveau directeur voulait décider des femmes à joindre à notre comité de rédaction et suggérer des arguments. C'est très difficile dans le Vatican de faire entendre sa voix dans la liberté. C'est plus facile qu'il y a des femmes choisies par le clergé, choisies par les hiérarchies, des femmes qui sont choisies parce qu'elles sont obéissantes.
Le mensuel a notamment consacré une enquête au viol de religieuses par des prêtres en début d'année. Et c'est suite à cet article que le pape a reconnu pour la première fois l'existence de tels abus. Est-ce à cause de ce sujet-là que la situation s'est détériorée? Réponse de Lucetta Scarafia.
Il n'y a personne qui a dit exactement ces mots. Mais je sais qu'un mois après notre article sur les abus de la religieuse, est sorti un article sur le quotidien Osservatore Romano qui faisait une critique au documentaire de Arte où on parlait des abus de religieuses.
Le directeur de l'Osservatore Romano, Andrea Monda, nie ces accusations d'ingérence. Il a été placé à ce poste du jour au lendemain en décembre dernier dans le cadre d'une réorganisation de la communication du Vatican. Le pape François, lui, n'a pas encore réagi à cette démission en bloc de femmes engagées au sein de son église.
Il s'agit là aussi d'un engagement. En France, la ministre des Sports déplore la tonalité des chants de supporters dans les stades de football. Elle évoque le caractère homophobe de certains de ces chants. La patronne de la Ligue de foot professionnelle a, elle, expliqué que ces chants faisaient partie du folklore dans les stades. Des propos que condamne la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa. Dans le même temps, hier également, deux associations ont déposé plainte contre un ancien joueur international, Patrice Evra, pour des insultes homophobes. Des sanctions existent déjà pour les dérives des joueurs ou des supporters, mais elles ne sont pratiquement jamais appliquées. Alors pourquoi ? Élément de réponse ce matin avec le sociologue Nicolas Ourcade, spécialiste des supporters de football.
Pendant longtemps, on a considéré qu'un certain nombre de chants faisaient partie du folklore des stades, y compris des chants qui pouvaient ressortir un caractère un peu raciste, par exemple, voire ouvertement raciste. Et puis, depuis la fin du XXe siècle, il y a eu une prise de conscience des autorités du football, mais aussi des groupes de supporters, sur le fait que dénigrer l'adversaire sur des critères racistes n'était plus acceptable. Donc des insultes qu'on peut retrouver encore aujourd'hui dans les stades italiens notamment, on les retrouve quasiment plus de manière collective dans les stades français, c'est uniquement des comportements isolés. Et ça a passé par une sensibilisation à la question du racisme dans le football. Ça va être la même chose de mon point de vue sur l'homophobie. Un travail de sensibilisation, mais de l'ensemble des acteurs. Parce que l'homophobie dans le football, elle concerne pas spécialement les supporters, mais l'ensemble des acteurs, puisque quasiment aucun footballeur ne peut faire son coming out aujourd'hui, sauf en fin de carrière. Et donc, il y a un travail de sensibilisation de tous les acteurs du monde du football pour évoluer sur ces sujets-là. En gros, la sensibilisation profonde de la société française aux questions de racisme, elle date des années 80. La sensibilisation aux thématiques homophobes dans l'espace public, c'est beaucoup plus récent. Donc, si on veut avoir une vision positive, on peut dire que progressivement, ça peut s'améliorer dans les stades. Si on veut avoir une vision négative, on peut dire que ça n'a pas beaucoup évolué depuis 20 ans.
Le sociologue Nicolas Ourcade, il répondait à Audrey Dumain. Météo France prévoit quelques nuages bas sur le nord du pays ce mercredi et toujours un grand soleil au sud de la Loire, sous des températures plutôt douces, avec 9 degrés ce matin à Strasbourg, Paris, Amiens, 10 à Nantes et Lyon, 15 degrés de Perpignan jusqu'à Nice. Il est 6h40, vous écoutez France Culture. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées. Et à 2 mois des élections, l'actualité européenne s'étoffe. Notons notamment hier, Jacques, l'adoption par le Parlement européen de la directive sur le droit d'auteur.
Oui, avec notamment donc cette nouvelle directive, l'obligation pour les grandes plateformes du web de rémunérer les ayants droit lorsqu'un utilisateur poste une œuvre, un texte, une chanson ou un film. Et cet autre point de crispation majeur avec les géants du secteur que relève Le Monde, l'article 15 qui prévoit que les plateformes en ligne rémunèrent les éditeurs de presse dont elles utilisent les contenus. Un droit voisin, comme on dit, qui courra pendant 2 ans après la publication d'un article, à qui, après un débat acharné par 348 voix contre 274, le vote a été très près de tourner court, juste avant celui-ci, une motion d'un groupe d'eurodéputés proposant de voter sur une série d'amendements plutôt que sur l'ensemble du texte, ce qui aurait pu permettre aux eurodéputés de rejeter certains articles, n'a été repoussée qu'avec une majorité de 5 voix. Le rituel démocratique propre à la vie parlementaire européenne est assez fascinant. Le magazine L'âme des lieux a exploré l'imposant bâtiment du Parlement de Strasbourg à tant d'égards symboliques, ne serait-ce que par son apparence calculée d'inachèvement. L'hémicycle frappe d'abord par sa luminosité, assurée par une immense verrière illustrant une transparence affichée. Compte tenu de la diversité des langues, les débats et les votes ne peuvent se dérouler dans le même temps. Les textes sont d'abord examinés dans les 24 langues officielles et autres traduction. Puis vient le temps d'une chorégraphie atypique en session plénière où les bras se lèvent puis redescendent dans un mouvement continu à un rythme effréné, observe Giuseppe Lavezzi. Chacun des 751 eurodéputés dispose de sa liste de vote, le plus souvent élaborée avec son groupe politique. Tourner les pages, lever et baisser le bras plusieurs dizaines de fois par minute, pendant bien souvent 1 heure durant, sans prendre connaissance à cet instant du contenu des amendements, est un spectacle unique et étonnant, écrit-il. Nous sommes tous en mal d'Europe et l'Europe nous fait mal, avoue Régis Debray dans l'hebdomadaire Le 1, consacré aujourd'hui au désir d'Europe. L'écrivain distingue 4 entités dans l'ambivalence de cette pulsion. Celle de Paul Claudel, l'Europe des cathédrales, de la chrétienté, et celle de l'esprit qui s'épanouit à la même époque que célèbre Paul Valéry et qui voit se réunir lors des décades de Pontigny les grands intellectuels comme André Gide, Stefan Zweig et tant d'autres. Puis celle de l'ordre nouveau entre 1940 et 1944, l'Europe de la division Charlemagne, 7000 Français dans la division des Waffen-SS, et de Drieux La Rochelle qui déclare « Je ne suis pas français, je suis européen ». Enfin la nôtre, l'Europe de la monnaie, de l'eurozone. Elle se résume paradoxalement dans les propos gaulliens du panégyrique de Malraux, les chaînes qu'on abat. Du temps où les nations se haïssaient, l'Europe avait plus de réalité qu'aujourd'hui. Bernard Guetta évoque la valse des fantômes tutélaires du continent, alors que notre allié américain nous lâche militairement et entend combattre notre concurrence économique. Menacé à l'Est par le revanchisme de Poutine qui a réalisé la première annexion territoriale de l'après-guerre en Europe, celle de la Crimée, et entretient la guerre en Ukraine orientale, s'amuse à montrer ses muscles en violant régulièrement l'espace aérien des pays baltes, les anciens États communistes de l'Union européenne la voit comme la nouvelle URSS, l'Europe donc. Un sentiment qui a provoqué le développement des partis europhobes et là aussi une lecture ambivalente de l'histoire. Le mur tombe en 1989 et ses 10 ans de guerre en Yougoslavie, des conflits en Ukraine, en Géorgie, la Moldavie déchirée, des révolutions en Asie centrale, l'explosion du chômage, les retraités qui vendent de vieilles casseroles et d'antiques pull-overs dans les couloirs du métro de Moscou pour survivre. Le choc social génère une peur générale. La modernité aussi, par exemple le mariage gay, c'est comme si certains pays avaient légalisé l'anthropophagie ou que la commission de Bruxelles voulait marier tous les aînés hongrois à des réfugiés afghans. La dernière livraison de la revue Esprit propose un dossier sur le nouvel autoritarisme en Pologne. Jean-Yves Potel souligne les traits communs aux gouvernements illibéraux d'Europe de l'Est, au point qu'on peut se demander s'il ne faut pas en rechercher les causes principales dans le bilan européen des 30 dernières années, plutôt que dans la sortie du communisme et d'un régime qui n'aura finalement duré que 45 ans. Et à propos du nationalisme, le politologue Michal Sutowski évoque le sentiment de pouvoir qui résulte de la définition des frontières de sa propre communauté. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux avec vous. Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire de votre émission... Justement, l'Union européenne et la Serbie avec sa demande d'adhésion.
Voilà, vous parliez de la guerre en Yougoslavie. C'était dimanche dernier le 20e anniversaire des frappes de l'OTAN sur la Serbie. À l'époque, encore Yougoslavie avec le Monténégro. C'était la campagne qui avait contraint le président Milosevic à retirer ses troupes du Kosovo, qui est encore aussi perçue comme une agression, selon les termes en tout cas du président Aleksandar Vučić. Le problème, c'est que le Kosovo est aussi peut-être la clé d'une hypothétique adhésion de la Serbie à l'Union européenne, adhésion ou illusion. On voit ça avec vous, Loïc Trégorès. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone ce matin, chargé d'enseignement à l'Institut catholique de Paris, auteur de plusieurs notes sur la Serbie, les Balkans, notamment notes pour la FRS, Serbie, Kosovo, options et scénarios. Alors, à l'époque, ces frappes, là, quasiment 80 jours de campagne, avaient tué entre 500 et 2500 personnes en Serbie, selon les estimations. Qu'est-ce que vous retenez, vous, des commémorations de ce week-end? Est-ce que ce sont ces accusations du président Vučić qui parle encore d'agression, ou est-ce que c'est la présence de 8 ambassadeurs qui parlent d'un jour où la diplomatie a échoué, presque des excuses, pas encore ?
Non, des excuses, on n'en est pas là, et il n'y a a priori pas de raison qu'il y en ait, en dehors du fait qu'effectivement des victimes civiles ont été tuées, mais la raison pour laquelle les bombardements ont eu lieu, je ne vois pas pourquoi, et je ne vois pas dans quelle mesure, des ambassades occidentales auraient à s'en excuser. De l'autre côté, c'est le narratif serbe depuis 20 ans de qualifier ce qui s'est produit d'agression de l'OTAN, c'est-à-dire d'être dans une logique où nous avons été très injustement frappés, sans aucune raison, par la volonté de Bill Clinton. Et d'ailleurs, il m'est arrivé assez souvent qu'on me demande « Mais vous, Français, avec l'histoire que nous avons entre nos deux pays, comment avez-vous pu vous laisser manipuler comme ça par Bill Clinton ?» Donc il n'y a pas de retour réflexif, il y a très très peu de retour réflexif sur ce qui s'est passé. Oui. Ce qu'on retient, c'est que nous, on est un pays européen et on a été bombardé par l'OTAN, les Américains, le grand Satan, etc. Donc il n'y a pas de retour réflexif là-dessus.
Et de la même manière, la Serbie, elle ne s'est pas non plus excusée des événements 98-99.
Non, c'est pas prêt d'arriver.
Voilà, et alors votre appréciation du discours d'Aleksandar Vučić, je le disais, donc il parle toujours d'agression, il était à Nice dans le sud de la Serbie, pas très loin justement du nord Kosovo. Est-ce que c'est une posture nationaliste obligée ou est-ce qu'il y a un message à la communauté internationale?
C'est, ça fait partie du narratif officiel. Bon, oui. Le président Tadić n'aurait pas nécessairement fait très autrement en réalité. Faut pas oublier néanmoins effectivement que le Vučić en question, il était ministre de l'information de Slobodan Milošević au moment des bombardements. Faut jamais oublier que c'est pas quelqu'un qui vient de nulle part. Après, le message c'est toujours le même, c'est que au fond, le narratif n'a pas changé. C'est une agression. On nous a volé le Kosovo. Et ça, on n'en démordra pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas prêt à relativement tourner la page, se tourner vers l'intégration européenne, on est prêt à tous les compromis possibles sur le Kosovo en dehors de la reconnaissance. Donc ça, c'est d'accord. Mais tout en se positionnant dans cette posture-là.
Et alors précisément, puisque vous en parlez, est-ce qu'il n'y a pas justement en arrière-plan cette question du Kosovo, plus encore pour ces commémorations-là que peut-être pour les précédentes, puisqu'il y a eu cet épisode du 11 novembre en France auquel le président donc Vučić a participé, mais pas dans la tribune présidentielle, alors même que là, il y avait le dirigeant Hashim Thaçi du Kosovo qui était dans cette fameuse tribune avec Emmanuel Macron, Donald Trump, Merkel, Vladimir Poutine, en gros une reconnaissance du Kosovo. Est-ce qu'il n'y avait pas un véritable camouflet de ce point de vue-là?
Alors, absolument. Je pense que je ne sais pas qui a fait l'erreur au niveau du service, du protocole, mais c'était une véritable erreur qui a été ressentie comme une véritable humiliation en Serbie et à juste titre, il ne faut pas se le cacher. Notre ambassadeur en Serbie s'est excusé immédiatement, à juste titre. Le président Macron devait y aller un petit peu plus tard, en décembre dernier, et vraisemblablement pour arranger un petit peu les choses, mais ça s'est pas fait à cause des Gilets jaunes, il ira dans pas très longtemps. C'était évidemment ressenti comme une humiliation. Après, il n'y a pas nécessairement de lien entre la commémoration des 20 ans et ce qui s'est produit. On reste dans des narratifs qui sont connus depuis longtemps.
Oui,
après,
oui.
Sur la question du Kosovo, en Serbie, si vous voulez, le Kosovo, on en parle beaucoup comme quelque chose qui relève de l'imaginaire, du totem, du fétiche. C'est une carte qu'on joue, c'est quelque chose qu'on agite, c'est un écran de fumée qu'on dispose, davantage que de façon concrète. Y compris pour parler des Serbes du Kosovo, d'ailleurs.
Oui.
Donc, l'utilité du Kosovo, elle est là. C'est parce que c'est quelque chose qui, symboliquement, est extrêmement fort pour le peuple serbe, donc on l'utilise à cette fin-là.
Et avec, de la part du gouvernement serbe, une sorte de guérilla juridico-institutionnelle, on pourrait dire, en tentant de barrer la route à un certain nombre d'institutions pour le Kosovo. Là, c'était encore le cas avec les championnats d'Europe de karaté à Novi Sad, pour ne citer que l'année dernière. Vous l'expliquez dans votre texte pour la FRS. Justement, comme vous dites également, des négociations qu'il y a en cours un peu au pas de course depuis l'année dernière entre Kosovo et Serbie sur un potentiel échange de territoire, qui aurait là à la fois une opportunité, une fenêtre d'opportunité un peu en 2019 du point de vue des personnes, mais qu'en même temps il y a deux demandes de reconnaissance quasiment inconciliables, si je vais vite.
Bah, c'est-à-dire, la grande question, c'est de savoir si cette fenêtre d'opportunité, elle est bel et bien ouverte ou si on est en train d'assister à un grand jeu de dupes parce qu'il est dans l'intérêt d'un certain nombre d'acteurs de faire monter un petit peu la pression sur cette question et de masquer le reste. Donc la grande question est là, étant entendu que le vrai changement de ce point de vue-là, c'est que la question du changement des frontières, appelons ça comme on veut, démarcation, échange, tout ce qu'on veut, c'était une idée qui était vraiment très marginale et qui appartenait à des cercles proches de l'extrême droite il y a encore 2 ans, et qu'aujourd'hui, elle a reçu le blanc-seing à la fois de l'administration Trump et des services de Madame Mogherini. Et un silence approbateur, si vous voulez, de la part de la plupart des capitales européennes, à l'exception notable de Berlin.
Oui,
c'est pour ça qu'on en parle.
Oui, c'est cette fameuse formule que vous citez de nettoyage ethnique pacifique qui était employée par un ancien conseiller d'Obama. Là-dessus, quand même, quand vous parlez de fenêtre d'opportunité, c'est intéressant, vous parlez d'une conjonction entre les agendas des personnes, on pourrait dire, en place, et puis des agendas politiques. Mogherini, Federica Mogherini, qui doit quitter son poste pour la prochaine commission, et puis Hashim Thaçi, qui a plutôt intérêt à courir devant l'ONU que devant un éventuel tribunal pour les événements de l'époque. Mais Vučić, lui, c'est celui qui aurait le moins d'intérêt, Aleksandar Vučić, à court terme, en fait, à reconnaître le Kosovo. Il a tout intérêt à laisser traîner la situation un peu.
Oui, c'est ce que je crois, parce que, comme je vous l'ai dit, le Kosovo, c'est une forme d'écran de fumée. Pendant qu'on parle de ça, à la fois en Serbie et avec les partenaires européens, on ne parle pas du reste. Il ne faut pas oublier qu'Aleksandar Vučić, indépendamment de son passé, il est aujourd'hui perçu comme le seul et l'unique en Serbie capable de, in fine, résoudre la question du Kosovo. Mm-hmm. Donc, il a cette rente de situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si demain, si là, avant la fin de l'année, la question de la reconnaissance du Kosovo est pliée, je vois pas comment, mais admettons, ça veut dire qu'il restera encore 5 ans, 10 ans de chemin vers l'élargissement, vers l'intégration européenne, avec que des coups à prendre. Parce qu'on parlera enfin d'état de droit, on parlera enfin de justice, de corruption, etc., etc. Oui. Donc que des sujets qui fâchent. Il a que des coups à prendre.
Quand bien même le règlement du Kosovo serait un peu la porte d'entrée d'une réouverture des négociations, mais comme vous dites, avec des coups à prendre. Mais est-ce qu'il n'y a pas une tension entre deux objectifs chez lui là, justement, puisque il l'a pas promis, mais c'est un de ses objectifs, l'adhésion à l'Union, et qu'en même temps il y a cette posture et puis cette volonté nationaliste, hein, quand même, clairement.
Oui. Oui, mais c'est la raison pour laquelle ce n'était pas nécessairement son intérêt d'aller aussi vite dans un calendrier bien maîtrisé de sa part. La question du Kosovo serait arrivée à la fin, en gardant toujours ce fer au feu et en fomentant de temps en temps des tensions au Kosovo, comme il y en a eu à plusieurs reprises, entre le Kosovo et la Serbie. Ils sont très doués tous les deux pour créer plus ou moins de toutes pièces des incidents. Donc ça aurait fait une diversion pendant tout ce temps-là. Ça n'interrompt pas les négociations pour autant. Des chapitres continuent d'être ouverts, sauf que on n'en parle pas. Néanmoins, est-ce que la reconnaissance accélérerait le processus? J'en suis pas sûr. Regardez l'attitude de la France avec la Macédoine. La Macédoine, qu'il faut appeler Macédoine du Nord désormais, a réglé en un an un conflit vieux de 27 ans sur son nom. Est-ce que ça a fait bouger la France sur l'ouverture des négociations? Seulement l'ouverture des négociations.
Et non, puisque,
pas du tout.
Puisque la France avait bloqué la reprise de ces négociations l'année dernière, en avril ou en juin 2018, c'est ça, ou en avril 2018. Voilà. Négociations à reprendre. Mais écoutez, merci beaucoup en tout cas pour ce matin, vos explications. On renverra à votre note de la FRS, puis celle de l'ECFR, justement, l'ambition européenne de Macron qui commence dans les Balkans. Dites-vous, c'était en juillet 2018, on en reparlera. Merci Loïc Trégourès pour aujourd'hui.
Merci à vous.
Merci, bonne journée.
France Culture.
Une demi-promo.
L'esprit d'ouverture.
Est-ce qu'en France, les migrants sont vraiment mieux traités que les SDF? L'Europe aurait-elle été fondée sur ordre des services secrets américains? Les OGM sont-ils dangereux pour la santé? Mais surtout, ils sont là, ils sont cachés dans les villes, dans les campagnes. Les extraterrestres sont-ils parmi nous? Parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions, mais trop souvent des mauvaises réponses. Les idées claires, c'est votre pilule hebdomadaire contre la désinformation.
Les idées claires, Nicolas Martin. Chaque mercredi, retrouvez un podcast audio et une vidéo. Plus d'infos sur franceculture.fr.
Et sur France Culture tout court, c'est 6h57, l'heure des matins avec Guillaume Erner. Bonjour Guillaume.
Bonjour Xavier Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Voilà, ce n'est pas passé inaperçu pour vous, un petit pogrom entre amis.
Oui, un petit pogrom, c'est ce qui a eu lieu cette semaine en France, en région parisienne, un pogrom anti-Rome. On a vraiment du mal à y croire et pourtant ça se passe maintenant, c'est notamment raconté par le journal Le Monde. Donc des petits groupes d'habitants de la Seine-Saint-Denis sont réunis pour aller casser du rhum, notamment à la sortie du bidonville de la rue de Paris, à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Il faut que tout change pour que rien ne change. Eh bien, c'est une nouvelle fois l'illustration de la maxime. Rien ne change parce qu'on continue à chasser du zigane comme jadis. Et c'est toujours en raison des mêmes calomnies, en l'occurrence, une accusation d'enlèvement d'enfants. Tout change pour que rien ne change parce qu'aujourd'hui, ces accusations sont relayées sur les réseaux sociaux, démenties sur les réseaux sociaux. La préfecture de police de Paris a vigoureusement démenti cette calomnie. Tout change parce qu'aujourd'hui, on trouve des vidéos de ces lynchages. Tout cela nous renvoie quelques siècles en arrière, alors qu'existait déjà l'accusation d'enlèvement d'enfants. C'est autour de cette accusation que l'anti-judaïsme a pris son essor en Europe au cours du XIIe siècle. L'accusation de crime rituel, une accusation qui s'est largement diffusée au cours des siècles jusqu'à provoquer des pogroms. Au début du XXe siècle, à l'époque, il s'agissait d'accuser les juifs de sacrifier un enfant chrétien dans le but de prendre son sang pour confectionner du pain azyme. Alors, ce qu'il y a de désespérant dans l'accusation actuelle dirigée contre les Roms, c'est qu'elle témoigne de la persistance d'un cerveau reptilien chez les êtres humains, y compris à l'époque des réseaux sociaux. Les accusations les plus anciennes, les plus monstrueuses, les plus chimériques fonctionnent exactement de la même manière, même si elles sont désormais transmises de manière électronique. Tout se passe comme s'il n'y avait pas de progrès. Alors, il y a un progrès technique, bien sûr, mais pas de progrès social. Tout se passe comme si le Moyen-Âge était encore vivant parmi nous. Inutile de l'apprendre en classe, on peut le retrouver à tout moment dans les zones les moins hospitalières de nos esprits.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Herner.
Et aujourd'hui, au lendemain du vote par l'Assemblée nationale en première lecture du projet de loi de santé du gouvernement, nous allons recevoir Martin Hirsch. Il est directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris. On va évoquer avec lui ce qui est fait en matière donc d'hôpital, également en matière d'assistance aux plus pauvres. Quel mécanisme utiliser pour une société plus solidaire alors que notre pays traverse une crise sociale? Et puis on évoquera également le dernier ouvrage de Martin Hirsch, « Comment j'ai tué son père ?» Une réponse au pamphlet « Qui a tué mon père ?» de l'écrivain Édouard Louis. En attendant, il est 7h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil.